Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron à la rencontre des sinistrés dans les Alpes-Maritimes. Le président y sera cet après-midi et les attentes sur place sont grandes. État des lieux avec le président du conseil départemental dans un instant. Nous entendrons ensuite les arguments d'un historien qui s'oppose au projet de loi sur la restitution des biens culturels au Bénin et au Sénégal. Le texte, dit-il, est trop restrictif. Pour la première fois en France, une action de groupe a été lancée pour dénoncer les différences de salaire hommes-femmes à la caisse d'épargne. Nous vous expliquerons pourquoi dans cette édition. Et puis Sébastien Chado-Pétronin est à Bamako ce matin au Mali dans l'espoir d'une éventuelle libération de sa mère Sophie Pétronin. Elle est la dernière otage française dans le monde. Emmanuel Macron est donc dans le Sud-Est, est attendu en tout cas dans le Sud-Est aujourd'hui. Avant cela, il présidera un conseil de défense et un conseil de ministres où seront présentés les projets de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 et le congé paternité qui sera allongé. Emmanuel Macron attendu à Tende à 15h ensuite, puis à Breil-sur-Roya et Saint-Martin-Vésubie. Une visite attendue, je vous le disais, par les habitants et par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Team Charles-Ange Ginesi, qui compte sur les fonds de l'État pour la reconstruction.
C'est comme si un bombardement était tombé sur les Alpes-Maritimes. Le département des Alpes-Maritimes compte 35 km de route à refaire. On a une dizaine de ponts qui ont été emportés. C'est toute une histoire du département des Alpes-Maritimes qui, en quelques heures, entre 16h et 23h, avec plus de 500 mm d'eau qui sont tombés pendant ce laps de temps, a vu son patrimoine historique s'échapper, partir dans les flux, dans la Roya, dans la Vésubie, dans le Var, autant dans l'Estéron. Quand je regarde le bilan de ce qui a été détruit, c'est colossal, mais ça représente 10, 15, 20% de ce qui est utilisable dans notre montagne, de ces villages. Autant dire que les dégâts sont considérables.
C'était Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, avec Julien Langlais. À l'Assemblée nationale, les députés ont validé hier soir la restitution des biens culturels au Sénégal et au Bénin. Il s'agit en fait de rendre au Bénin 26 pièces issues du trésor de Béhanzin, des pièces provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Quant au Sénégal, le texte lui permettra de récupérer un sabre et un fourreau attribués à une figure majeure de l'histoire militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. À ce propos, invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, Julien Volpert, historien de l'art spécialiste de l'Afrique, conteste cette loi. Il s'en est expliqué.
Moi, ce que je vois surtout avec un projet de loi qu'on présente comme un projet de loi d'exception, c'est d'abord de réfléchir à ce terme d'exception. Pour faire un projet de loi d'exception, il faut montrer en quoi le cas concerné est exceptionnel. Est-ce que c'est une exception par rapport au fait colonial? Mais dans ces cas-là, la colonisation ne concerne pas que des questions africaines. J'allais dire, la France a eu des colonies en d'autres parties du monde, notamment je pense à l'Asie, je pense à l'Indochine, qui concerne donc des pays actuels comme sont le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. Est-ce que l'on parle de la question d'une exception qui est celle d'un butin de guerre? Là encore, qu'on me l'explique, le butin de guerre n'est pas une spécificité du fait colonial. C'est quelque chose qui se pratiquait, qui était légal, j'insiste là-dessus d'ailleurs, avant les conventions de l'AE de 1899. C'est une pratique régulière qu'on ne réserve pas simplement, comme on l'entend souvent, de dire c'est une spécificité qu'on a réservée à l'Afrique. Non, ça se fait même entre États européens. Pour rappel, les troupes françaises, qu'elles soient révolutionnaires ou napoléoniennes, ayant agi en territoire italien ou belge actuel, ont ramené des œuvres. Donc ce n'est pas une exception non plus dans ce sens-là.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Cet entretien avec Julien Volpert, historien de l'art, est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Les députés de l'Assemblée, eux, ont validé donc ce projet de loi unanimement hier soir. En revanche, à l'Assemblée, hier, le vote a été plus disputé concernant la réintroduction des néonicotinoïdes pour les productions de betteraves. 313 voix pour, 158 contre et 56 abstentions. Chez les députés La République En Marche, pour la majorité, 32 députés ont voté contre ce texte, 36 se sont abstenus, c'est un record inattendu. La Caisse d'épargne d'Île-de-France est assignée en justice cet après-midi par la CGT pour discrimination envers les femmes. Pour la première fois en France, une action de groupe a été lancée pour dénoncer des différences de rémunération au sein de cette banque coopérative. En effet, d'après le bilan social 2018 de cette société, les employés masculins gagnent en moyenne 18 18% de plus que leurs collègues féminines. À compétences et à postes identiques, l'écart de rémunération peut représenter plusieurs centaines d'euros du salaire mensuel. Exemple avec Cécilia Arbonnat.
Ils ont été embauchés à la Caisse d'épargne en même temps, en 1993. Bernard et sa collègue Aline ont débuté tous les deux au standard.
On s'est aperçu il y a peu en fait qu'on avait une différence de salaire à hauteur de 300 euros base temps plein. C'est assez choquant, dans la mesure où on a réussi à identifier les périodes où la différence se fait, soit au congé maternité, soit au congé parental que Aline a pris à l'époque.
Devenu délégué syndical CGT, Bernard Dantec s'est aperçu qu'il y avait d'autres femmes discriminées dans son entreprise à tous les étages.
On a des conseillers commerciaux, nous avons des conseillers financiers, nous avons également une responsable adjointe d'agence et une directrice d'agence.
8 salariés femmes sont à l'origine de l'action de groupe lancée en juin 2019 contre la Caisse d'épargne. Catherine Vinet-Larry est à la retraite depuis 2016, mais elle se bat pour celles qui sont encore en activité.
Le fait d'être une femme, effectivement, je pense que ça m'a bloquée, puisque à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu un appel d'offres pour devenir responsable au niveau des agences. Je lui demandais à ce qu'on ait la capacité en droit minimum, ce que j'avais. Ils ont choisi un homme plutôt que moi et l'homme n'avait pas du tout cette formation.
Un rassemblement en présence d'associations féministes est prévu cet après-midi devant le siège de la Caisse d'épargne d'Île-de-France dans le 13e arrondissement de la capitale.
Cécilia Arbonnat pour France Culture. Cela semble être un développement significatif pour l'éventuelle libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde. Plus d'une centaine de djihadistes ont été libérés ces derniers jours au Mali. En échange, l'opposant Soumaïla Cissé et la française Sophie Pétronin, détenues tous les deux par des islamistes armés, pourraient être libérés. Aucune confirmation officielle pour le moment. Mais sachez que le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Chadeau Pétronin, a pris un vol à destination de Bamako hier, dans la capitale malienne donc. Sur place, notre correspondant Kaourou Magassa l'a rencontré hier soir.
On est passé un peu par tous les stades. On a beaucoup galéré, on a beaucoup souffert. Il y a eu aussi des moments de joie, il y a eu des fabuleuses rencontres, mais c'était quand même un sacré parcours du combattant. Et puis je pense que pour ma famille, ça serait bien que ça s'arrête. Alors on croise les doigts parce qu'on ne sait toujours pas... On ne sait toujours pas si ça va s'arrêter. Il faut qu'on reste prudent. D'être ici, c'est ma place. S'il y a une petite chance qu'elle puisse sortir de cet enfer, il faut que je m'avance vers elle au maximum. Si je pouvais m'avancer encore plus, je le ferais. J'aime ma mère, puis je trouve qu'elle a fait des très belles choses. Donc ça ne peut pas mal se terminer. Il faut que tout ça aille vers la lumière. Je sais pas, mon cœur me dit ça.
C'était donc Sébastien Chadeau Pétronin qui est en ce moment à Bamako. Ce procès historique marquera un tournant dans la lutte antifasciste en Europe. Verdict attendu aujourd'hui dans le procès fleuve contre le parti néo-nazi grec Aube Dorée. Le tout après 400 audiences, 5 ans et demi de procédure. À Berlin, autre procès qui s'ouvre cette fois aujourd'hui. Celui de Vadim Krasikov. Ce russe de 55 ans est accusé d'avoir assassiné en plein centre dans la capitale allemande un opposant tchétchène à la demande de Moscou. Ce cas rappelle évidemment l'affaire Skripal qui avait choqué en Allemagne. Rappel des faits avec notre correspondante Nathalie Versieux.
Le meurtre a eu lieu en plein jour et au cœur du Tiergarten, le plus grand parc du centre de Berlin. Un homme à vélo s'est alors approché de Tornike Kaftarashvili et l'a abattu à bout portant. La victime, âgée de 40 ans, était un Tchétchène de Géorgie. Le parquet est convaincu que Moscou a commandité le meurtre de cet ancien séparatiste tchétchène qui avait combattu les forces russes entre 2000 et 2004 et vivait avec sa famille en Allemagne depuis 2016. L'affaire sera jugée par une cour spécialisée dans les affaires touchant à la sécurité de l'État. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, cette affaire serait un spectaculaire cas de terrorisme d'État sur le sol allemand, estime le magazine Der Spiegel, selon lequel Krasikov aurait reçu un entraînement des services secrets russes. Le meurtre de Kaftarashvili rappelle l'empoisonnement de l'agent double Skripal à Londres, ou celui d'Alexei Navalny, soigné depuis août en Allemagne. Berlin avait expulsé deux diplomates russes fin 2019 et menacé Moscou de sanctions pour protester contre le manque de coopération des autorités russes pour élucider le meurtre de l'opposant tchétchène.
Nathalie Versieux. Peu de changements ce mercredi côté ciel en France métropolitaine, si ce n'est que le sud-est va bénéficier d'un grand soleil. Ailleurs, le temps va osciller entre pluie fine et éclaircie. Ce matin, il fait 12 degrés à Paris, Rennes et Lyon, 19 à Nice.